VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 19h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. RDC, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a fait appel de sa condamnation par la Cour pénale internationale. Selon la défense de M. Bemba, ses droits ont été à tel point violés que le procès est en fait un jugement entaché d'un vice de procédure. Rappelons que Jean-Pierre Bemba, 53 ans, un riche homme d'affaires devenu chef de guerre, avait été condamné en juin à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il a été jugé responsable de la vague de meurtres et de viols commis par sa milice, le Mouvement de libération du Congo, en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Le bureau de la procureure de la CPI a 2 mois pour répondre à l'appel de la défense de l'ancien vice-président congolais. RCA, Bangui continue de réclamer la levée de l'embargo sur les armes. C'est le message répété à l'ONU par le chef de l'État centrafricain Faustin Archange Touadéra, alors que les groupes armés désarment difficilement sur l'ensemble du territoire centrafricain, comme en témoignent les dernières violences de Kwango, où une vingtaine de personnes ont trouvé la mort en RCA. Avant de regagner son pays, le président Touadéra s'est entretenu avec VOA Afrique. On écoute Faustin Archange Touadéra au micro de Nicolas Pinault.
Mais vous voyez que nous avons hérité d'un pays où il y a beaucoup de difficultés, nous sortons d'une crise. Et il y a encore des groupes armés qui sont encore dans le pays, qui occupent une bonne partie du territoire. Et il y a aussi, comme vous savez, les gens avec les armes, eh bien, il y a aussi la criminalité qui va avec, puisque c'est cela. Mais nous essayons de travailler sur la sécurité et convaincre donc nos compatriotes, tous les groupes armés, pour déposer les armes et renforcer donc nos forces de défense et sécurité. Au jour d'aujourd'hui, il y a les forces des Nations Unies, la MINUSCA, qui nous aident à rétablir la protection de nos populations, la sécurité. Et de notre point de vue, ces violences, nous allons tout faire pour, limiter et faire en sorte que nos populations puissent vivre vraiment dans la tranquillité, pour vaincre leurs occupations.
Alors, l'un des leaders de ces groupes armés, le général Sidiki, dit qu'il a reçu son autorité de Bangui. Vous l'avez rencontré. Quelle est votre réponse?
J'ai reçu, comme vous le savez, après mon investiture, je me suis engagé à entamer des échanges avec tous les groupes armés pour leur montrer, indiquer donc notre vision, comment nous voulons engager le processus de désarmement. Puisque pratiquement tous les groupes armés ont participé aux élections. Je pense que la volonté du peuple centrafricain est manifeste. Le peuple veut la paix. Ça veut dire le désarmement, la restitution des forces armées, la cohésion sociale. C'est un ensemble. Et c'est cette vision que nous avons voulu partager avec les groupes armés. Comment nous entendons enclencher ce processus? Il y a eu déjà des accords, notamment l'accord du 15 mai 2015 et tout ça pour le désarmement. C'est dans ce sens-là que nous avons rencontré tous les groupes armés. Et nous avons rencontré Sidiki justement, qui, disons, grâce à la facilitation logistique de la MINUSCA, qui a permis donc cette opportunité d'échanger avec lui pour lui montrer cette vision. Il nous a semblé adhérer au DDM, mais il serait question de demander à ce Sidiki d'assurer. Non, ils doivent faire en sorte que son groupe puisse rentrer dans le processus du DDR. Aujourd'hui, il n'est plus question d'aller vers la violence. Les Centrafricains veulent la paix. Les Centrafricains veulent la cohésion sociale. Ce n'est pas en causant des violences sur les différentes communautés que nous allons avoir la paix. Et ceux qui continuent, ils vont faire face à la justice de notre pays. Et nous les invitons vraiment ardemment à regagner, à rentrer dans la République. À rentrer dans la République pour respecter les lois et nos règlements et aller vers la paix. Quels sont ceux qui se disent centrafricains qui causent des violences sur d'autres centrafricains? Nous, ce n'est pas cela que nous demandons. Nous allons travailler dans ce sens-là. Nous avons engagé le gouvernement et la structure que nous sommes en train de mettre en place au niveau de la présidence pour qu'il y ait le désarmement, pour qu'on réfléchisse ensemble, parce que ce désarmement, il doit être inclusif. Et il ne s'agit pas de faire la guerre aux uns et aux autres, mais de les convaincre pour qu'ils déposent les armes. Et là, nous avons l'appui de la communauté internationale.
Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra au micro de Nicolas Pinault.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Tchad, libération ce mercredi des quatre responsables de l'UNET, l'Union nationale des étudiants du Tchad, arrêtés hier. Aucune charge n'a été retenue contre eux d'après la police. En revanche, les étudiants accusés d'avoir commis des actes de vandalisme lors de la manifestation de lundi seront mis à la disposition du parquet. Les manifestants protestaient contre la décision du gouvernement de supprimer les bourses d'études malgré l'interdiction du rassemblement décidé par le ministre de la Sécurité. Soudan du Sud, le journaliste sud-soudanais Isaac Vouni, enlevé en juin, a été retrouvé mort dans son pays. Reporters sans frontières appelle les autorités de Djouba à faire toute la lumière sur ce meurtre. Claire Morin-Gibourg.
Le corps du journaliste Isaac Vouni a été découvert lundi dans une ferme près du village de Kerepi, où vit sa famille, à la frontière avec l'Ouganda. Ce confrère avait été kidnappé avec son frère Andruga dans la maison familiale le 4 juin dernier. Un témoin a affirmé au site internet South Sudan Liberty News que les kidnappeurs portaient des uniformes du Tiger Battalion, la garde du président Salva Kiir. Selon Reporters sans frontières, Vouni a été tué peu après son enlèvement, qui n'a pas été revendiqué. Son frère, lui, n'a pas été retrouvé. Isaac Vouni a souvent travaillé pour le journal Sudan Tribune. Il avait été arrêté à Djouba en 2009 pour avoir écrit que des membres du gouvernement et de l'armée étaient impliqués dans un scandale financier. Il avait à nouveau été arrêté et détenu au secret pendant plus d'un mois en 2011 dans le cadre d'une répression contre les journalistes sud-soudanais.
En Mauritanie, les journaux privés mauritaniens ont été paralysés ce mercredi par une grève pour sensibiliser l'opinion publique sur leurs difficultés, aggravées selon eux par une mesure du gouvernement suspendant la publicité des services de l'État. Les précisions de Tatiana Mosso.
Le mouvement d'une journée a été observé par des journaux en français et en arabe, considérés comme les plus importants de Mauritanie. Ce mouvement de grève vise à sensibiliser l'opinion sur la situation chronique de la presse écrite qui se meurt à petit feu, affirme l'initiative des éditeurs de la presse écrite formée des syndicats des journaux en grève. L'initiative dénonce une circulaire du gouvernement, une nouvelle loi sur la publicité qui vise à réguler le secteur, contrôler les ressources publicitaires et mieux les partager entre les établissements de presse. Outre la faiblesse des ressources publicitaires, l'initiative cite également parmi les difficultés de la presse écrite la diminution des abonnements, la mévente et les charges de journaux. Le gouvernement a mis en place ces dernières années un fonds d'appui à la presse de 500 000 euros, dont près du tiers va à l'imprimerie nationale au titre d'assistance à l'impression des journaux de la presse nationale.
Conflit en Irak, les États-Unis enverront des renforts militaires pour aider les forces irakiennes à reprendre la ville de Mossoul, occupée par le groupe État islamique. Plus de détails avec Timothée Donangmaï.
Au moins 4600 soldats américains sont actuellement en Irak. Et selon un responsable américain s'exprimant sous anonymat, le président Barack Obama s'apprête à ordonner l'envoi de quelques 600 instructeurs et conseillers militaires sur place. Leur mission ? Former et conseiller les troupes irakiennes alors qu'elles finalisent leur plan de reconquête de la ville de Mossoul. Dans une déclaration publiée sur son site internet, le premier ministre irakien Haider al-Abadi a confirmé le feu vert de l'administration Obama à sa requête pour une augmentation du nombre d'instructeurs et de conseillers militaires. Pour l'heure, il n'est pas clair si les renforts américains incluront des unités des forces spéciales. Cela fait des mois que les États-Unis et l'Irak préparent l'offensive majeure qui permettra de reprendre Mossoul, deuxième ville du pays et dernier bastion urbain des djihadistes du groupe État islamique.
Campagne présidentielle aux États-Unis, la candidate démocrate Hillary Clinton et son rival républicain Donald Trump de nouveau en tournée électorale après leur débat télévisé de lundi soir. Hillary Clinton était en Caroline du Nord et Donald Trump a été en Floride, deux États où les deux rivaux sont au coude à coude dans les sondages. Et puis pour terminer, le Sénat américain a voté aujourd'hui à une large majorité pour passer outre à un veto du président Barack Obama, veto contre la loi autorisant les victimes du 11 septembre à poursuivre l'Arabie Saoudite en justice. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.